Bonjour à tous, je m'appelle Bruno Maltor. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un blogueur voyage. Ça fait 7 ans, plus ou moins, que j'ai créé un blog qui s'appelle votretourdumonde.com. À l'époque, j'étais d'ailleurs en stage à l'étranger, à Shanghai, en Chine. Mais on va pas parler de la Chine aujourd'hui, même si c'est un pays qui est assez intéressant. Il est très grand, donc je ne le connais pas encore assez pour pouvoir vous en parler. On va parler d'un pays un peu plus proche, un pays assez méconnu, un pays connu pour sa capitale en Europe, qui s'appelle la République tchèque, ou la Tchéquie d'ailleurs. C'est un pays où j'ai vécu, à Prague. Que j'ai aussi pas mal exploré parce que justement je voulais pas m'arrêter à sa capitale, tout comme je pense qu'on peut pas s'arrêter à Paris quand on vient en France. Pour vous situer un peu le contexte, moi ça fait donc 5 ans que bloguer et voyager c'est mon métier. J'ai la chance d'avoir plus ou moins 600 000 abonnés sur tous mes réseaux sociaux. Par exemple sur Instagram on est 222 000 aujourd'hui, j'aime beaucoup ce chiffre. Sur YouTube on a un peu plus de 100 000 et sur Facebook on est 200 000 aussi, donc voilà c'est mes trois réseaux assez forts. Et sur mon blog on a 2 millions de visiteurs uniques par an.
Vous écoutez Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Deux fois par mois, je reçois un ou une invitée qui se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué. Dans cet épisode, Bruno nous raconte la République tchèque. Avec lui, on a parlé de feux d'artifice, de soucoupes volantes et du métier de blogueur voyage.
Ce qui est cool avec mon métier en tant que blogueur voyage, c'est que j'ai juste besoin d'une connexion internet pour travailler. Ce qui veut dire que je suis un digital nomade. Alors, digital nomade, c'est pas un métier, c'est un style de vie. On fait souvent la confusion. C'est-à-dire que si toi, chez toi, tu te rends compte que tu as juste besoin d'une connexion internet pour travailler, que t'as pas besoin d'aller dans un bureau fixe pour bosser, tu es potentiellement digital nomade. Tu peux donc être un community manager, tu peux être, je sais pas, un web designer, tu peux être un développeur d'application. Tous ces métiers-là te permettent de pouvoir bosser d'où tu veux à partir du moment où tu as bien entendu des clients. Et aujourd'hui, on a une vraie tendance de fond, justement, de développement du digital nomadisme un peu partout dans le monde, que ce soit en Amérique latine, en Asie, notamment des capitales un peu du digital nomadisme. Et en Europe, tu as quelques villes où j'ai eu la chance de vivre, parce que j'aime beaucoup l'Europe. Je trouve qu'on a un continent qui est extraordinaire, qui est très riche en histoire, en, je sais pas, en culture, etc. Donc j'ai souvent voulu rester en Europe. Il y a quelques villes qui sont super intéressantes, dont Prague. Pour vous situer Prague et la République tchèque en général, on a tendance souvent à dire que la Tchéquie c'est en Europe de l'Est et ça a tendance d'ailleurs à énerver un peu les locaux parce que c'est pas du tout en Europe de l'Est, c'est bien plus en Europe centrale. Par exemple, Prague est plus à l'ouest que Vienne qui est la capitale de l'Autriche. Alors que quand, en général on se dit ouais Prague c'est méga loin et tout, en vrai pas du tout. C'est presque sur la même ligne que Berlin. Donc c'est vrai qu'on est beaucoup plus dans l'Europe centrale. Si un jour vous allez en Tchéquie, n'hésitez pas à dire plutôt Europe centrale que Europe de l'Est, ça fera plaisir aux locaux. Moi, Prague, j'ai eu la chance d'y aller pas mal de fois. La toute première fois, c'était il y a 3 ans et demi pour le Nouvel An. Donc c'est vrai que quand même, même si on va pas résumer la Tchéquie que à Prague, quand tu arrives à Prague, quand même, c'est une belle claque architecturale, une belle claque, un retour dans l'histoire. Enfin, moi, je trouve que c'est une ville qui est magnifique, qui a eu la chance d'être épargnée pas mal, notamment de par les guerres. Même s'il y a une histoire, une anecdote qui est entre guillemets assez marrante, qui n'est pas du tout marrante, mais qui date de la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains, ils avaient pour ordre de bombarder à Dresden, qui est une ville super intéressante aussi, mais en Allemagne. Mais ils avaient mis les mauvaises coordonnées GPS à l'époque, donc dans les avions, etc. Et ils se sont retrouvés à les bombarder un peu Prague avant de se rendre compte qu'ils bombardaient pas la bonne ville. Donc bon, c'est une histoire un peu glauque, mais qui est quand même assez atypique et que je voulais vous raconter. Donc ce qui fait que Prague, voilà, c'est quand même très bien conservé. Et j'étais allé passer le Nouvel An là-bas. Donc c'est clair qu'au niveau des saisons, parlons-en tout de suite, l'hiver il fait froid et l'été il fait chaud. Mais voilà, ça reste supportable. Et ce qui était vraiment très cool, c'est que ben le 31 décembre, j'avais réussi à m'incruster dans une soirée avec des potes. Et il y avait une immense terrasse dans l'appartement où on était. Et il a neigé à peu près à 23h58. Et à partir de minuit, en fait, là-bas, ils ont pour plaisir de faire péter des feux d'artifice de partout dans les rues. D'ailleurs, c'est méga dangereux quand tu te balades un peu éméché par la suite. Faites attention à vous. Mais voilà, la scène était vraiment extraordinaire dans une ville qui est trop belle. Il commence à neiger à 23h58. Et là, t'as les feux d'artifice qui pètent, mais de partout dans tout Prague. C'était ahurissant. Je pense que c'était le meilleur nouvel an de ma vie. Donc, j'ai déjà eu un bon premier rapport avec Prague qui m'a donné envie de rester déjà. Parce que, comme je vous l'expliquais, Avec mon métier de blogueur voyage, j'ai pas besoin d'être en France spécialement pour bosser. Donc j'ai eu la chance de vivre à New York, j'ai eu la chance de vivre à Saint-Pétersbourg en Russie, à Prague, du coup à Budapest, cette année c'est Lisbonne. J'enchaîne un peu les destinations. Et du coup, là, je m'étais dit que j'allais rester un petit peu à Prague, donc je suis resté quelques semaines. J'ai vraiment kiffé, j'ai fait des super rencontres. Il y a beaucoup d'expats là-bas, il y a forcément beaucoup de monde qui parle anglais aussi, même auprès des locaux. C'est un des rares endroits où on parle plutôt bien anglais d'ailleurs, en Tchéquie. C'est quand même une capitale assez jeune, tu fais plein de rencontres, ça bouge, c'est super agréable. Et je conseille forcément cette ville pour aller la visiter et même pour y vivre, parce qu'en fait c'est une ville qui est super agréable. Prague, c'est une ville qui déjà ne coûte pas trop cher, c'est une ville où il y a beaucoup d'espaces verts, et c'est une ville qui est quand même, je trouve, même si elle est bien entendu ancrée dans le passé, elle est aussi pas mal vers le futur. T'as pas mal de grosses boîtes qui sont là-bas, donc il y a pas mal de choses qui se passent, et surtout c'est au cœur de l'Europe. Donc si tu veux bouger un petit peu à droite à gauche, comme je disais, t'es pas loin de Berlin, t'es pas loin de Vienne, t'es pas loin de Budapest, t'es pas loin de plein de choses qui sont super intéressantes. Donc c'est vraiment une bonne position, avec un aéroport qui te fait aller partout. Enfin bref, t'as pas mal de choses qui peuvent se faire depuis Prague. Donc j'ai passé quelques semaines où j'ai vraiment apprécié mon passage à Prague, et j'y suis retourné du coup il y a 2 ans et demi, pour plus longtemps cette fois. J'y suis retourné pour 6 mois, et c'est vraiment là, du coup, comme je vous dis, que j'ai appris à vraiment kiffer Prague et à bien entendu sortir de l'hyper centre-ville. Parce que voilà, c'est vrai que quand tu viens à Prague et que t'es un touriste, tu vas rester en général dans l'hyper centre. Moi j'appelle ça un peu Disneyland, parce que c'est toujours blindé de touristes, de bus de chinois, de français, d'allemands, enfin bref, de gens de partout forcément en Europe. Et c'est vraiment bondé, et c'est pas du tout ce Prague-là, moi, que j'apprécie, parce que ben, je trouve que t'es vraiment asphyxié quand tu vas dans ce centre-ville. C'est la 5e ville la plus visitée d'Europe, Prague, donc forcément c'est beaucoup plus petit que Paris, et tout le monde va au même endroit. Donc je donne souvent ce conseil d'ailleurs à mes abonnés sur mes réseaux, mais levez-vous tôt si vous visitez Prague et que vous visitez le centre-ville. Quand je dis tôt, c'est lever de soleil, donc ça peut être 5h, 6h du mat, mais ça vaut le coup après, parce que t'as personne sur le pont Charles, etc. Donc c'est beaucoup beaucoup plus agréable que de se retrouver serré comme des sardines dans le centre-ville. Donc ce qui est intéressant avec Prague, c'est plus les quartiers alternatifs. J'ai fait une vidéo dessus, j'ai pas envie de trop vous teaser, mais l'idée c'est que moi j'habitais à Žižkov, donc ça s'écrit Z-I-Z-K-O-V, et là-bas t'as la tour de télé qui est assez connue, parce que c'est connu pour être les monuments les plus moches d'Europe. Donc voilà, ambiance. Mais en vrai, moi je la trouve assez marrante et assez originale. T'as des bébés qui sont dessus et tout, donc voilà, c'est à voir. Mais voilà, le quartier de Žižkov, c'est un quartier qui est pas trop touristique, justement. Et c'est pour ça qu'il vaut bien le détour. T'as vraiment pas mal d'expats et de jeunes qui habitent dans ce quartier-là. Donc c'est là que t'as tous les cafés qui sont un peu sympas, où t'as pas beaucoup de monde qui vient te faire chier, où tu peux vraiment vivre ta vie tranquillement, vivre ton Prague. Et ça reste très très beau. C'est là-bas que t'as des maisons colorées aussi, tout ça. Donc je vous conseille vraiment d'aller vous perdre là-bas. Puis vous verrez que voilà, Prague, ça se résume pas qu'à son centre-ville. Ce qui est très cool aussi à Prague, c'est j'ai perdu beaucoup de temps dans les beer gardens en été. La bière, elle coûte même pas 2 euros, et voilà, tu te retrouves qu'avec des locaux, il y en a de partout dans la ville. L'été, il fait assez chaud, il fait 30 degrés assez facilement, donc c'est parfait avec 2-3 bières pour pouvoir faire des rencontres, et pas avec les locaux, qui pour la plupart à Prague parlent plutôt bien anglais. Je dirais que tous les jeunes de moins de 30 ans parlent bien anglais à Prague. Si tu commences à parler aux papy mamie dans la rue, ça va être un peu plus compliqué, mais ils seront quand même plutôt sympas. C'est vrai qu'il y a un peu l'image des gens qui sont froids, qui veulent pas qu'on les embête parce que t'es en Europe centrale, aka Europe de l'Est pour certains, comme vous l'avez compris. Mais moi, j'ai trouvé pas mal de gentillesse chez les gens. Alors évidemment, on n'est pas en Amérique latine où les gens seront vraiment ouverts, ça sera eux qui viendront vous voir tout de suite, etc. Mais je trouve que voilà, les Tchèques, souvent, on les résume à des gens froids, etc. Et c'est pas forcément le cas. Je trouve qu'ils sont plutôt cool. J'ai fait pas mal de belles rencontres à Prague. Mais bon, la Tchéquie, c'est pas que Prague. C'est 11 millions d'habitants, et je pense que Prague, c'est 2 millions d'habitants, plus ou moins. Donc, il y a pas mal de choses à voir. Par exemple, la deuxième ville du pays, alors, je vais très mal prononcer tous les trucs que je vais dire à partir de maintenant, parce que chaque ville a un nom compliqué, car vraiment, à la Tchèque. La deuxième ville du pays, c'est Brno, B-R-N-O, et c'est assez cool, c'est vraiment très, très étudiant. Et il y a vraiment moyen de, pareil, de se perdre un petit peu, de faire des belles rencontres. Donc, je vous conseille d'y aller si vous passez à Prague. En fait, le truc, c'est que je sais qu'en général, les gens qui vont à la Tchéquie, ils vont aller passer uniquement 2-3 jours à Prague, après, ils vont rentrer en France. Et en même temps, bah voilà, c'est ce qu'on appelle le city break aujourd'hui. C'est le truc qui est cool, mais moi je conseille vraiment de rester quelques jours en plus et d'aller, ben voilà, de louer une voiture, ça coûte à peine 10 euros par jour, et de vous perdre du coup vraiment dans le pays. À 3/4 d'heure, 1 heure de Prague maximum, t'as vraiment des trucs qui sont vraiment super super sympas. Donc c'est ce que je vous conseillerais de faire, c'est de vous perdre. Et c'est comme ça qu'on se retrouve vraiment dans des situations, mais un peu what the fuck. Comme je disais, c'est quand même surtout à Prague qu'on parle bien anglais. Moi, je suis végétarien, bon, depuis 3-4 ans déjà, donc c'est pas nouveau. Et c'est vrai que c'est souvent un problème quand tu voyages de pouvoir trouver de la nourriture végétarienne un peu partout autour du monde. Franchement, c'est galère. Par exemple, j'ai vécu au Pérou il y a 5 ou 6 ans. Et quand je demandais est-ce que vous avez quelque chose de végétarien, on me donnait du poulet, littéralement. Donc c'était un peu compliqué. Bah après, c'est un peu la même chose, sachant que du coup, aucun menu n'est traduit. Donc tu es sur une langue qui est totalement différente de la tienne, à savoir le tchèque. Clairement, tu ne connais rien à part un ou deux mots comme pivo qui veut dire bière. C'est pas ça qui va t'aider à bien manger, même si tu pourrais te nourrir que de bière, je sais pas, j'ai jamais tenté. Je conseille pas de tenter pour autant. Du coup, quand tu vas au fin fond de la Tchéquie, c'est clair que tous les menus, bah, tu vas vraiment, vraiment rien comprendre. Et c'est clair que quand tu vas demander à la madame de 50, 60 ans, Do you speak English? Qu'elle te regarde en mode, bah non, elle comprend même pas ta question déjà. Tu sais que ça va être un peu la galère. Pour ça, il y a une application d'ailleurs que je conseille qui est Google Translate, évidemment. En fait, t'as juste besoin de faire la photo des menus et tu peux présélectionner les mots que tu veux traduire et ça marche plutôt bien, ça te traduit le menu plus ou moins en 3-4 secondes quoi, franchement ça c'est cool. Donc téléchargez Google Translate quand vous partirez au fin fond de la Tchéquie, mais je pense qu'à partir du moment où tu télécharges Google Translate et que tu sais que tu vas galérer, c'est un peu là que la magie va opérer et que tu vas te dire waouh, je suis à seulement 2 heures d'avion de Paris, j'ai pris ma caisse 1 heure pour sortir de la capitale et là je me retrouve perdu au fin fond de la Tchéquie avec personne qui me comprend, personne qui va capter ce que je vais te dire. Et c'est là que ça devient intéressant pour moi, le voyage en Tchéquie, c'est de te perdre un petit peu et de sortir ta zone de confort, comme on appelle ça aujourd'hui, c'est le mot un petit peu, enfin le terme un peu à la mode. Mais ouais, c'est là que tu auras la magie qui va se passer. Il y a un endroit que j'ai vraiment, vraiment, vraiment kiffé, ça s'appelle les labyrinthes de roches de Bezedice. Alors en fait, c'est un endroit qui est à peu près, je dirais, 1 heure, 1 heure et demie de Prague. Et en fait, c'est pas un parc national déjà, mais j'aurais tendance à le considérer un peu comme tel. Moi, bon, c'est un peu survendu, mais comme je me suis un peu perdu aux États-Unis aussi, je trouve que voilà, quand on dit parc national aux États-Unis, tu sais que tu vas prendre des claques de ouf. Et bah voilà, cet endroit, j'en avais pas trop entendu parler, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais une fois que je suis arrivé, je me suis dit, mais c'est quoi cet endroit extraordinaire? Et c'est pour ça que je dirais que c'est un peu un parc national, parce que c'est un peu la claque que tu te prends quand tu visites Yosemite, etc. Alors attention, c'est pas aussi fou que Yosemite. Mais voilà, t'as quand même, tu te sens tout petit, parce qu'en fait, c'est un endroit où t'as des roches qui font des centaines de mètres, sorties de nulle part, qui sont en plein milieu d'une forêt, et t'en as des dizaines, des centaines, donc en fait, tu te sens vraiment tout tout petit. Et ça, c'est à 1 heure et demie de Prague, et ce qui était assez impressionnant, ce qui montre à quel point qu'aujourd'hui on aime tous se tasser au même endroit les touristes, bah c'est qu'il n'y avait personne en fait à cet endroit-là. Alors que ça fait vraiment contraste avec l'hyper-centre-ville de Prague, comme je disais un peu plus tôt, où t'as vraiment, bah, je pense vraiment des dizaines de milliers de gens qui se tassent à l'heure au même endroit. Là, avec une voiture, 1 heure de route, tu te retrouves dans un endroit qui est extraordinaire, en pleine nature, où il y a 4-5 Tchèques qui se demandent ce que tu foutes là, parce que c'est pas si connu pour les étrangers. Et du coup, bah, t'as des lieux, enfin, ce genre de lieux, rien que pour toi, c'est vraiment le gros gros kiff. Donc, je vous conseille vraiment d'y passer si jamais vous avez l'occasion. Les rocs de Bezedice, hashtag c'est très mal dit, bah ça vaut le détour. Il y a un autre endroit qui est vraiment, vraiment super cool, ça s'appelle Jested. Et en fait, c'est une ville assez grande dans le pays, mais qui a pas trop, trop d'intérêt selon moi. Ce qui vaut vraiment le coup, en fait, c'est qu'ils ont fait un hôtel avec une tour télé, en fait. Et ce qui est super atypique par rapport à cet endroit, c'est que la tour télé, elle est en forme de soucoupe volante. Donc, en fait, c'est aussi un hôtel, mais tu vois au loin, quand tu prends ta caisse, une soucoupe volante au loin, littéralement, tu sais pas trop ce que c'est. Et quand tu commences, bah, t'es curieux, enfin, en tout cas, moi je suis curieux, donc j'ai pris ma voiture pour aller voir un peu à quoi ressemblait cette soucoupe volante, parce que c'était quand même assez atypique comme situation. Mais en fait, j'ai compris en montant sur Gested, Jested, que c'était un hôtel et qui était aussi tour de transmission télé. Donc, c'est vraiment un endroit qui m'a marqué, que je trouvais, ça fait un peu science-fiction. Tu peux dormir dans cet hôtel, évidemment. Ça coûte assez cher pour la Tchéquie, parce que la Tchéquie est un pays où normalement ça coûte pas très cher en général. Je crois que c'était comme 50 ou 60 €, donc je m'étais pris beaucoup trop en retard. L'hôtel était complet, mais je pense que ça peut être une expérience assez folle. Et c'est justement ce genre de choses qui rend que la Tchéquie est assez, assez cool, parce que c'est vrai que, comme on dit, la France, c'est pas Paris. Bah voilà, là, rien qu'en 3-4 jours, tu peux déjà te perdre dans des parcs où il y a des roches immenses, tu peux voir un hôtel qui ressemble à une soucoupe volante. Et tout ça, vraiment, moi, ce qui m'a marqué par rapport à ce voyage, c'est qu'il y a personne, en fait, enfin, il y a personne. Il y a aucun touriste qui ose un peu s'aventurer dans le pays. Et c'est ça qui fait que pour moi, ça vaut vraiment le coup de se perdre, c'est que ben justement, tu feras forcément des découvertes assez ahurissantes. Et le tourisme de luxe, aujourd'hui pour moi, c'est le tourisme qui fait que tu es seul justement quand tu vas voyager quelque part. Enfin, Moi, en tout cas, j'imagine pas le tourisme de luxe comme un hôtel 5 étoiles, un spa, etc. J'ai tendance un peu à m'en foutre de tout ça, même si, bon, je commence un peu à vieillir, donc mon dos commence à souffrir si je dors sur des planches de bois. Mais dans l'idée, c'est vraiment plus se retrouver seul dans des endroits. Ça, c'est quand même un sacré délire. Par exemple, Gested, c'est un endroit qui m'a pas mal marqué pour ça. Un endroit où tu te retrouves dans un, encore une fois, un hôtel qui ressemble à une soucoupe volante qui surplombe du coup toute une région. Donc tu vois méga loin et tu te rends compte que c'est beaucoup beaucoup de nature la Tchéquie, beaucoup plus que tu pourrais le penser. J'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que les trois quarts de la Tchéquie, c'est des parcs, de la forêt, etc. Enfin, c'est vraiment un truc assez fou pour ça. Donc pour les amoureux de la nature, c'est vraiment un truc super cool. Moi, je sais que je fais un petit peu de randonnée et je me rappelle vraiment d'avoir fait des randos super cool en Tchéquie, et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce pays aussi, c'est que si t'es un amoureux de la nature, tu peux te retrouver tout seul dans des endroits avec des trucs où il y a que du tchèque de partout, donc tu comprends rien où tu vas vraiment, mais tu sais que tu y vas quand même. Et au pire, tu auras Google Maps, quelque chose comme ça pour t'en sortir. Mais la Tchéquie, c'est un petit paradis, déjà pour sa capitale qui est extraordinaire, évidemment, notamment pour les digital nomades. C'est vraiment une ville où tu as une bonne connexion internet, où tu as pas mal de coworking, de cafés où tu peux bosser. N'hésitez pas à aller à Café Fine d'ailleurs, c'est mon café préféré. J'allais y bosser quasiment tous les jours. C'est à Žižkov, le quartier dont je vous parlais un peu plus tôt. Et c'est un café voilà, qui est super beau, avec les briques apparentes, tout ça. Mais c'était mon petit café préféré qui fait des très bons tartines, en général, végétariennes notamment. Donc ça, c'est cool. Mais voilà, il y a vraiment un bon mix entre la nature, entre le côté tu peux vraiment sortir de ta zone de confort, qui est quand même assez important pour moi en voyage, et une capitale qui est quand même extraordinaire. Donc je pense que c'est un pays qui mérite vraiment le détour, que tu peux visiter en 2 semaines, mais en une bonne semaine déjà t'auras fait une bonne partie des choses qui me semblent vraiment immanquables. Même si on n'est pas sur un guide de voyage, pour moi les immanquables du coup sera forcément Prague. T'as Český Krumlov qui est la ville où ils ont tourné le film Hostel, un film d'horreur horrible. Donc dit comme ça, je le vends très mal, mais c'est vraiment une ville qui est magnifique, qui est quand même aussi assez touristique, mais qui est quand même une immanquable parce qu'elle est très très belle. Et après, allez vous perdre dans le nord. Moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le nord. T'as le paradis de la Bohème qui est magnifique, t'as la Suisse romande qui est magnifique aussi, ouais, c'est ça. Enfin bref, et les roches de Bezeditche dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Donc t'as vraiment plein de petits coins, si tu loues une caisse, que tu peux explorer en 4-5 jours. Donc au final, une bonne semaine en Tchéquie, c'est pas du tout volé. Et il faut en profiter parce que c'est qu'à 2 heures de la France et les gens ne connaissent que Prague. Donc en fait, je sais pas combien de temps ça va durer parce qu'il y a vraiment plein de petites perles, comme je vous le disais. Et moi, je trouve que ça vaut le coup d'y aller pour plus de 3-4 jours pour un city break. C'est pour ça que j'ai décidé de parler de la République tchèque aujourd'hui.
Merci beaucoup pour ce récit.
Mais de rien.
Bruno, comment on devient inspirateur voyage? Parce que j'ai entendu ton épisode de Quart de siècle où tu disais que tu n'aimais pas trop qu'on te définisse comme un influenceur.
Ouais, ça fait très gourou, je trouve. Influenceur, ça fait négatif. Ouais. Alors que, pour devenir inspirateur, même si c'est un terme qui ressemble beaucoup à aspirateur, comme je le dis assez souvent, c'est pour ça que c'est compliqué à dire dans la vraie vie. Bonjour, je suis aspirateur. Qu'est-ce que tu fais? C'est bizarre. mais du coup, je pense que pour devenir inspirateur voyage, ou autrement dit influenceur voyage, le terme à la mode, faut beaucoup de passion. Ça fait 7 ans que j'ai créé mon blog voyage, à une époque où justement il n'y avait pas d'influenceur, en tout cas pas de blogueur professionnel. Donc tu faisais ça pour le kiff, pour la passion et pour voir où ça allait t'amener. D'ailleurs, la plupart des blogueurs inspirateurs professionnels aujourd'hui, c'est ceux qui ont commencé il y a très longtemps, il y a 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans même, à une époque où justement quand tu disais à tes potes, les gars, j'ai lancé mon blog, c'est cool, ils me disaient, mais t'as un escablog, on s'en fout quoi. Voilà, faut beaucoup de passion, beaucoup de régularité. C'est clair que moi, j'écrivais 3 articles par semaine, tout le temps, pendant très longtemps. Là, j'essaie de sortir une vidéo par semaine sur YouTube, toutes les semaines, c'est beaucoup de taf, mais voilà. Faut de la régularité et faut de la créativité aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire ce métier, j'ai l'impression. Enfin, beaucoup de monde en rêve. Donc, c'est clair que si tu vas faire juste poster des belles photos de tes voyages, à part si t'es vraiment extraordinaire en photographe, ce que je te souhaite, faudra avoir une idée. Je prends souvent l'exemple d'un pote à moi qui s'appelle Mom I'm Fine sur Instagram. Son idée, elle est toute bête. C'est pas le meilleur photographe, désolé Jonathan, si tu m'écoutes, mais ce qui fait sa force, c'est qu'en fait, il fait des photos avec une pancarte partout autour du monde où il y a écrit dessus Mom I'm Fine, donc maman, je vais bien. Et il fait ça quand il fait de la plongée avec des requins, quand il fait plein de trucs différents un peu what the fuck. Et c'est ça qui a fait que tous les médias du monde ont parlé de lui, vraiment tous les médias du monde ont parlé de lui il y a quelques temps, et maintenant il a plus de 350 000 abonnés sur Instagram, donc il a été créatif. Et c'est ça aujourd'hui qui fait que tu peux t'en sortir, je pense. Et c'est clairement qu'il faut être créatif, passionné et régulier.
Bon, tu parlais de la dimension un petit peu rêve de ton métier.
Ouais.
Bon, il est vrai que beaucoup de gens disent que c'est le meilleur métier du monde et
ouais.
je pense que t'inspires forcément beaucoup de gens. Qu'est-ce que ça implique en termes de revers de la médaille?
Ouais, c'est clair que c'est un métier qui est extraordinaire. Je m'estime très chanceux depuis 5 ans de le faire. Mais effectivement, aucun métier n'est parfait. Je pense que même les footballeurs qui gagnent très bien leur vie pourront vous expliquer par A plus B qu'ils voient jamais leur famille, etc. Donc ils n'ont pas un métier parfait. Ben, pour moi, c'est un peu la même chose déjà par rapport aux amis, par rapport aux relations, amoureuses. Ça sera compliqué d'être en couple pour moi aujourd'hui parce que je suis vraiment très souvent sur la route. Quand je dis très souvent sur la route, c'est que je pense que je suis sur la route 9 mois par an environ. C'est compliqué pour moi d'espérer avoir une relation amoureuse parce que je verrai jamais ma copine, parce que je suis déjà pas mal sur mon téléphone. C'est aussi un des revers de la médaille aussi, c'est que je suis blogueur voyage, donc mon métier consiste à partager mes aventures. Alors même si je fais au max pour trouver le moment pour faire ma photo, faire ma vidéo et après poser mon téléphone pour profiter pour moi, t'es quand même forcément connecté pour partager tout ça. Donc les deux points négatifs principaux pour moi, c'est que faut vraiment aimer être connecté. Moi je sais que j'adore ça parce que je suis un fan d'internet depuis que je suis tout petit. Ça m'a permis de sortir un peu de mon lieu dit de 200 habitants en Haute-Loire, merci internet. La deuxième chose, c'est que du coup par rapport aux proches, par rapport aux relations amoureuses et tout, ce sera plus compliqué pour les voir ou pour les avoir du coup pour le deuxième cas. Et aussi c'est beaucoup de travail, beaucoup de taf. Je pense que je travaille tous les jours plusieurs heures par jour, au moins 60 heures, 110 heures par semaine, je compte jamais, mais en vrai ça va très vite. Donc beaucoup de travail aussi, beaucoup plus qu'on ne le pense.
Du fait de ton activité d'inspirateur voyage, tu voyages beaucoup et beaucoup pour le travail. Est-ce que tu arrives à te dégager des moments de vacances un petit peu loisirs où t'as pas forcément des impératifs de création de contenu derrière?
Ouais, alors assez rarement en réalité. Et en fait, le truc, c'est que surtout, même quand je prends des vacances pour moi, j'ai quand même tendance à vouloir quand même faire un truc, créer quelque chose. Et très vite, même si tu vois, je suis en voyage dans le sud du Portugal avec des potes, ou là, la semaine dernière, dans le sud-ouest de la France, ou au Guatemala il y a quelques temps. Très vite, même si j'y vais pour moi, et pas forcément pour le partager, ce voyage, ça va me manquer. Vu que c'est ma passion, vraiment, j'ai du mal à me dire, je suis en voyage et pas le partager. J'ai ce besoin, heureusement, parce que sinon, je pense que j'aurais déjà pété un cap depuis longtemps. J'ai ce besoin de partager un peu mon voyage, mes coups de cœur, mes conneries avec mes abonnés. Donc, il m'arrive, bien entendu, de partir pour moi en voyage. Mais n'empêche, assez vite, j'ai ce besoin de vouloir continuer à partager mes aventures.
Et justement, avant de partir en voyage, toi, quel est ton niveau de préparation et quelle place tu laisses à l'improvisation une fois que tu es sur place?
Ouais, alors ça va dépendre des voyages pour le coup. Si c'est un voyage pour, entre guillemets, le travail, j'y vais pour créer une vidéo, etc. Je vais pas laisser non plus trop d'impro parce que je suis quand même là pour travailler. Donc à l'image d'un photographe ou d'un vidéaste professionnel, tu vas pas partir non plus les yeux bandés dans la destination où tu vas partir. Mais je trouve pas mal de mes bons spots sur les réseaux sociaux, aussi atypique que ça puisse paraître. Aujourd'hui, sur Instagram, par exemple, avec des hashtags, etc., tu peux vraiment trouver des perles qui sont pas trop... Enfin, si tu regardes le nombre de fois où le hashtag a été mis d'une destination, tu vois si elle est réputée ou pas. Donc je trouve qu'avec Instagram, déjà, on a un bel outil qui est axé sur l'image, évidemment, mais qui peut permettre de trouver des spots qui peuvent être intéressants. T'as des groupes sur Facebook aussi. Moi, je sais que j'ai créé un groupe sur Facebook qui s'appelle Voyageurs autour du monde. Il y a plus de 120 000 personnes dessus. Mais franchement, c'est une mine d'or parce que si tu tapes le nom de ta destination dans la barre de recherche, tu vas trouver des dizaines, des centaines d'échanges entre passionnés du voyage qui sont allés en Tchéquie, qui sont allés à Cuba ou je ne sais où. Et je suis sûr, tu peux trouver vraiment plein de trucs intéressants, que ce soit des logements, des chambres d'hôtes, des coups de cœur en termes visuels, etc., sur ce genre de groupe. Et j'aime bien me perdre sur le net aussi, mais évidemment, ce qui est cool aussi, c'est de demander sur place aux locaux. Moi je viens d'arriver, je suis là 2-3 jours dans cette région-là, dans cette ville-là, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Ça c'est quand même super cool, déjà pour créer le contact avec les gens, mais aussi pour avoir des trucs un peu plus d'insiders, des gens qui vivent vraiment dans les destinations.
Bon, tu parlais de vidéos, tu parlais d'articles. Comment tu documentes tes voyages de manière générale et est-ce que tu as un médium préféré?
En général, quand je vais partir en voyage, t'as deux choses qui vont se réaliser. T'as le pendant le voyage, les choses que je vais créer pendant le voyage, ça va être les stories sur Instagram forcément, qui est quand même un réseau social où je suis vachement engagé dessus parce que j'ai plus de 220 000 abonnés, parce que c'est quand même 5-6 ans de travail dessus. Avant j'étais pas mal sur Snapchat parce qu'il y avait les stories, mais comme Instagram a piqué les stories à Snapchat, maintenant je suis plus sur plus sur Instagram. Donc, y aura les posts sur Instagram, les posts sur Facebook, donc ce sera vraiment mes visuels et les stories pour le côté un peu plus live. Et après, quand je vais rentrer à la maison, ça sera la production d'une vidéo en général, minimum par voyage, et un article aussi récapitulatif, parce que tu peux pas tout dire dans une vidéo. Mes vidéos font entre 10 et 15 minutes, ce qui est déjà un format assez long. Mais plus ça devient un peu compliqué, je pense, pour arriver à capter l'audience internet pendant 20 minutes, une demi-heure, ça devient assez complexe, pas impossible mais complexe. Donc, une vidéo, un article et après des posts sur tous mes réseaux sociaux. Mon réseau social préféré, j'aime le détester, mais quand même Instagram, c'est un immanquable pour moi aujourd'hui, pour échanger avec mes abonnés, parce que je trouve ça méga important de répondre à tout le monde et tout. Pour être créatif, en stories, j'essaye vraiment de faire des formats un peu atypiques, avec du drone shot, avec quand même des formats un peu plus raw, où je vais raw, hein, pas raw, R-O-T. Donc je vais pouvoir raconter mes blagues, mes conneries comme celle-là, par exemple. ce genre de choses. Donc Instagram, j'aime détester ce réseau-là, parce que je trouve que tout le monde se copie, parce que dès que t'as une bonne idée, tu vas le voir le lendemain sur un autre inspirateur qui va faire la même chose que toi, etc. Mais par exemple, je vais prendre l'idée de ce que j'ai fait il y a pas longtemps, je trouvais ça super cool. C'était, je suis allé au Guatemala en mars, mais en fait c'est mes abonnés qui ont choisi où est-ce que j'allais partir. J'avais fait une liste de 10 pays où j'avais envie d'aller, dans tous les cas où je rêvais d'aller depuis pas mal de temps, comme Oman, comme la Jordanie, comme l'Ouzbékistan, comme Cuba, comme le Sénégal, enfin bref, comme pas mal de destins. Il y en avait 10 et je faisais s'affronter l'une contre l'autre directement. Donc je mettais des visuels super cool, super attractif, et en fait avec les sondages sur Instagram, les gens votaient pour une destination ou pour l'autre, et c'est le Guatemala qui avait gagné. Faut savoir qu'il y a à peu près, je sais pas, 30-40 000 personnes qui regardent mes stories. Je pense qu'il y avait genre 28 000, 29 000 votes sur 30 000. Enfin, les gens étaient trop taqués sur ce concept-là. Et mon voyage au Guatemala, d'ailleurs, c'était un coup de cœur. On aurait pu en parler, mais il a déjà été abordé dans un épisode. Mais c'était marrant comme concept, et je pense le refaire. Donc voilà, je trouve qu'avec Instagram, tu peux être créatif et tu peux avoir une relation de proximité avec les gens qui te suivent et tout. Je trouve ça quand même assez cool.
Outre ton matos pour capter, pour faire du contenu, ce genre de truc, qu'est-ce qu'on va toujours trouver dans ton sac quand tu pars?
Franchement, pas grand-chose. Parce que mon matériel, il prend déjà pas mal de place. Il y aura la trousse de soins que ma maman me fait tout le temps avant que je parte. Alors, à chaque fois, on se voit pas souvent, mais à chaque fois avant que je reparte de la Haute-Loire, là d'où je viens, elle me donne 150 médicaments et tout, vu qu'elle est infirmière. À chaque fois, je lui dis, maman, ça sert à rien. Et à chaque fois, je me retrouve dans la merde au bout du monde à me dire, putain, merci maman, quand même, t'as bien géré à me faire cette trousse. Donc, il y aura quand même une trousse de premiers soins. Il y aura, franchement, pas beaucoup de vêtements. Moi, je suis quand même plus minimaliste. Donc je vais prendre 3 t-shirts, une chemise, 2-3 pantalons, 2 shorts, un maillot de bain, quelques sous-vêtements, et puis c'est bon quoi. En fait, le plus tu voyages et le plus tu te rends compte que ça sert à rien de prendre beaucoup de choses avec toi. Donc ce que je vous conseille vraiment, c'est que quand on part en voyage, on veut prendre plein de choses avec soi, on veut rien laisser à la maison, mais vraiment c'est l'inverse qu'il faut faire. Prenez le minimum, quitte à en prendre vraiment pas beaucoup et à vous dire mais qu'est-ce que je fous. Et sur place, vous allez vouloir acheter un petit pull bolivien si vous allez en Bolivie. Vous allez vouloir acheter un tissu iranien en Iran, ce genre de choses. Donc prenez pas trop d'affaires avec vous, c'est ce que je fais tout le temps. Après moi j'ai en plus le problème du matos, mais ça je suis obligé de le prendre avec moi. Mais voilà, ça m'a appris le voyage à être minimaliste et du coup à prendre pas trop de choses avec moi. Et franchement, voilà, c'est ce que je conseille.
Pour se parler du retour maintenant. Toi, est-ce que tu es atteint de ce qu'on appelle le blues du voyageur, le blues post-retour? Et si c'est le cas, comment tu le soignes?
Alors moi, j'ai la chance quand même de beaucoup voyager. Donc sincèrement, j'ai jamais eu trop le blues du retour. Ce sera plus, par exemple, quand t'as vraiment vécu quelque part. C'est quand tu vas partir d'une vraie grosse expérience que tu vas ressentir ça. Mais comme j'ai la chance de pouvoir repartir assez vite derrière, ça me permet de pouvoir justement passer à autre chose et ouvrir un nouveau chapitre de voyage dans ma vie. J'ai cette chance-là. Le blues du voyageur, c'est souvent pour les gens qui partent longtemps que ça arrive. En tout cas, le vrai blues du voyageur, on est tous dégoûtés quand on rentre de voyage, de vacances, etc. évidemment. Mais moi, je parle de ceux qui partent pendant 6 mois, 1 an, voire même plus. C'est là que ça devient compliqué. J'ai pas mal de potes qui ont vécu ça, qui étaient partis en Australie 2 ans, qui avaient fait un working holiday visa, qui reviennent en France, ils sont un peu dégoûtés. Ce qui marche assez bien, je trouve, c'est justement de se rassembler avec d'autres voyageurs qui vont comprendre un peu ton état d'esprit et qui vont pouvoir t'écouter par rapport au fait que tu vas un peu dire ouais, en France c'est moins bien pendant quelques jours, mais ils vont pas te juger pour autant, et ça c'est super cool. Et je pense que voilà, se rassembler entre voyageurs, c'est assez cool pour ça. Alors je vais pas faire ma pub parce que je suis pas là pour ça, mais il y a un événement événement qui s'appelle le Vert du Voyageur que j'ai créé il y a 2 ans et qui est franchement super cool pour ça. J'en parle parce que la dernière édition n'était pas plus tard que samedi soir. Et il y a vraiment des centaines de gens qui viennent dans un endroit qui est privatisé pour l'occasion. Et il y en a beaucoup qui viennent tout seuls et ça je trouve ça extraordinaire et qui font des rencontres trop cool, qui voyagent ensemble avec ces gens par la suite. Et vraiment du coup le Vert du Voyageur par exemple, si tu reviens de voyage et que ça va pas très bien, ça peut être très cool pour toi. Parce qu'il y a beaucoup de voyageurs qui sont bienveillants et qui veulent t'aider un petit peu à passer ce bad blues du voyageur, c'est comme ça que tu l'as appelé. Il y a plein d'expressions.
Il y a plein d'expressions.
Ouais, c'est ça. J'essaie de reprendre la tienne. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à rencontrer des gens qui voyagent et à échanger avec eux. Et pourquoi pas planifier un autre voyage, même s'il est un peu moins loin, ça peut vous permettre de passer à un nouveau chapitre du retour de votre voyage.
Bah justement, la transition est toute trouvée, tu parlais de rencontres. Toi, comment tu considères la rencontre en voyage? Est-ce que c'est, on va dire, des relations un petit peu éphémères mais intenses, ou est-ce que tu as tendance à garder contact avec les gens que tu rencontres? Et de manière générale, est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marqué plus particulièrement?
Waouh, il y en a plein des rencontres, comme j'ai eu la chance de voyager pas mal. Bah, la dernière qui me vient en tête, en tout cas pour répondre à la dernière partie de la question, c'est Daryl. Daryl, en fait, c'est un guide que j'ai rencontré en Guadeloupe. On a grimpé ensemble la Soufrière, si je dis pas de bêtises. Et en fait, Daryl, c'est vraiment un passionné de la nature. Mais quand je dis passionné de la nature, c'est que le mec, il fait des câlins aux arbres, littéralement. Quand il voit des arbres, il fait des câlins. Quand il voit une plante, il va vraiment l'embrasser, des choses comme ça. Enfin, des trucs, au début, t'es là genre, mais c'est une blague, c'est une caméra cachée, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, c'est vraiment un amoureux de la nature et qui m'expliquait, mais toute l'utilité de la forêt, des plantes, des animaux, etc., de A à Z. Genre, il me disait ça, c'est bon pour les pommades, si t'as mal à la cuisse, etc. Enfin bref, vraiment, c'était un mec passionnant parce qu'il était passionné. Donc, ben voilà, en général, quand tu vas faire les belles rencontres, ça va être parce que les gens sont passionnés sur quelque chose, en général, de la vie, pourquoi pas, enfin bref, d'une thématique particulière. Et Daryl, du coup, c'est la dernière personne vraiment ultra, ultra passionnée que j'ai rencontrée et qui m'a fait me dire, mais wow, il y a vraiment des gens super intéressants partout autour de la planète. Pour répondre à l'autre partie de la question, moi, j'ai tendance à garder contact, évidemment, avec des gens. Après, je peux pas garder contact avec tout le monde. Et de toute façon, on se rend vite compte en voyageant que, ben justement, on fait un peu le tri, entre guillemets, de ces relations. Bah déjà tes potes en France, j'imagine que t'as pas mal de potes en France, mais quand tu vas partir en voyage pendant pas mal de temps, tu vas te rendre compte que ton cercle va forcément se restreindre et qu'il va en rester au maximum une dizaine, je dirais, mais vraiment au maximum. Et c'est normal, faut pas bader, faut pas te dire ouais j'ai pas de potes et tout, c'est juste que de toute façon tu peux pas garder contact avec tout le monde. Je crois même que le cerveau peut retenir le nom que d'un certain nombre de personnes, j'ai plus le chiffre en tête, mais
je crois que c'est 100 personnes au maximum,
ouais, un truc comme ça, avoir une relation amicale avec une centaine de personnes maximum. Donc si tu vas partir en voyage, tu vas faire plein de rencontres, tu peux pas garder contact avec tout le monde et tout, c'est normal. Donc en général de mes voyages, je garde au moins une bonne relation avec qui je vais garder contact. Et il est déjà arrivé qu'on se recroise un peu partout autour du monde, c'est ça qui est cool aussi, parce que les gens que je rencontre sont souvent des voyageurs, donc après tu peux te faire des week-ends entre voyageurs, se retrouver. T'as toujours la féerie un petit peu de l'instant et tout, l'euphorie de retrouver les gens, donc c'est toujours super cool. Donc j'essaie de garder contact et c'est assez facile aujourd'hui quand même avec tous les réseaux sociaux et tout, même si encore une fois tu peux pas garder contact avec tout le monde. L'idée c'est pas de demander des nouvelles tous les jours, mais écrire aux gens que t'as rencontrés, avec qui t'as eu un bon feeling une fois tous les 2-3 mois, c'est assez cool à faire.
Pour se parler du futur maintenant, et bon, tu mentionnais précédemment voilà, beaucoup de pays que tu voulais visiter quand tu as mis en place ta petite OP sur Instagram. Quels sont tes, si tu m'autorises le mot, tes fantasmes un petit peu de voyage, les pays que tu, voilà, qui sont vraiment sur ta bucket list et que tu as absolument envie de découvrir?
Bah moi je suis quand même plus en mode what the fuck dans tous les cas, enfin bon, tu sais, tout ce qui est Antarctique, les trucs un peu trucs comme ça, ça me ferait vraiment kiffer. Mais après en fait c'est pas forcément les pays qui vont m'attirer, c'est plus les expériences que j'ai pouvoir faire dans ces pays. Par exemple, je sais que je vais à La Réunion dans quelques jours, alors j'ai toujours rêvé d'aller à La Réunion pour plein de raisons, mais c'est justement pour des expériences que je pourrais vivre là-bas. Et moi, un de mes rêves depuis tout petit, c'est de pouvoir plonger avec des baleines. Et je sais qu'à La Réunion en ce moment précis, si la nature le veut bien, parce que c'est pas un zoo, la nature, je pourrais peut-être voir des baleines et plonger avec elles. Donc c'est plus vraiment des expériences qui me font vibrer. Par exemple, le Guatemala, c'était grimper le volcan en éruption, El Fuego, et c'était extraordinaire. C'est plus ça qui va m'attirer qu'un pays en particulier. Mais évidemment, il y a quand même des pays dont la résonance, enfin, ça me fait vibrer. Bon, t'as tous les trucs un peu what the fuck, Ouzbékistan, Iran, bon, c'est plus trop what the fuck, mais ça le reste encore un peu. Mais t'as aussi des grands classiques qui me font rêver, comme la Nouvelle-Zélande, j'y suis encore jamais allé, et Dieu sait que bah, quand tu te perds sur Instagram, par exemple, des photos de Nouvelle-Zélande, ça te rend fou. Ou t'as des pays en Amérique latine, parce que j'ai vécu au Pérou, donc j'ai eu la chance d'aller en Équateur, en Colombie ou encore en Bolivie, qui sont des pays tous extraordinaires. Mais pourquoi pas le Chili, parce que t'as quand même pas mal de belles choses à voir par là-bas, avec l'île de Pâques notamment, dont t'as accès par le Chili. Donc ouais, ce sera les expériences avant tout, mais t'as quand même forcément quelques pays qui me font vibrer rien que par leur nom, quoi. Je pense que la Nouvelle-Zélande, quand t'es un amoureux de la nature et que t'es un amoureux des grands espaces, ça peut être vraiment canon. Et en plus, c'est assez loin, donc ça rajoute un peu de charme au truc.
Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. T'as un petit espace qui t'est réservé, donc si tu as un dernier mot, une recommandation, une anecdote à partager, c'est à toi.
Bah, il y a plein de trucs que je pourrais dire, par rapport à mon métier. Moi, j'ai la chance de faire un métier dont je suis passionné. Et ce que j'encourage vraiment les gens à faire qui me suivent ou les gens que je rencontre au quotidien, c'est: je ne connais pas ta passion, je sais pas ce que tu fais dans la vie, mais si t'as une passion, lance-toi à fond dedans si c'est possible, et tu verras bien, ça t'amènera dans quelques années. Moi, il y a 7 ans, quand j'ai lancé mon blog, j'avais aucune idée de ce que j'allais en faire, il y avait aucune prétention d'en faire un job ou quoi, ça existait même pas, ce métier, en fait. Il est arrivé au fil du temps, et pourtant c'est devenu mon métier. Donc voilà, si vous avez une passion, peu importe laquelle, bah lancez-vous là-dedans à côté de votre métier que vous avez pour l'instant, de vos études, et vraiment mettez tout votre cœur dedans, et peut-être que dans 4-5 ans, bah, vous ferez des podcasts avec des gens trop cool et tout, et vous raconterez un petit peu votre métier, vos expériences, et vous serez vraiment heureux dans la vie. Donc ça, c'est la première chose. Et puis bah, après, n'hésitez pas à voyager, évidemment, à faire des belles rencontres, à aller en Tchéquie, mais pas qu'à Prague. Et il y a plein de choses à voir qui sont super cool en Europe. Ne visez pas forcément méga méga loin. On a un continent qui est pour moi le plus beau au monde, c'est toujours compliqué à dire, mais en une heure d'avion ou en quelques heures de train, de bus, on peut se retrouver à boire une bière avec des Allemands je sais pas, faire du vélo à Amsterdam. Enfin bref, il y a vraiment trop de choses qu'on peut faire dans notre continent en un espace qui est très restreint. Donc profitez-en. Il y a plein de choses cool à faire.
Merci beaucoup Bruno.
Merci à vous.
Je tenais également à remercier Charles pour la prise de son, Julie et l'ensemble de l'équipe de Nouvelles Écoutes, puisque cet épisode a été enregistré dans leur studio. Merci beaucoup.
Et voilà. C'était Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Merci également à mon invité pour sa chouette histoire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute préférée. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram, bourlinguer.podcast. Ah oui, une dernière chose. La musique que vous entendez derrière s'appelle « J'ai bourlingué ». Elle a été écrite et interprétée par Serge Raphaël. Merci à lui.